RMC Running.
Benoît Boutron.
Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés. De la course à pied avec le grand Johan Durand. Notre portugais, mais sans la moustache. Eh oui, parce qu'il est en stage là-bas. Ça va Yodu, t'es en forme?
Ouais, ça va. Écoute, je t'ai fait un mulet portugais par contre. Attention les stations,
c'est en hommage à notre invité, alors j'imagine, le mulet. Ouais, certainement.
Oui, aussi, ouais. C'est vrai que lui peut me donner des cours de mulet, ouais. Bon, j'ai pas la moustache, tu vois, j'ai pas passé le cap encore.
Bon, t'as le moral, tu es en pleine forme et ça nous fait plaisir. Exact. Allez le suivre sur les réseaux sociaux, allez le suivre sur Strava notamment. Et continuez de vous abonner à RMC Running hein, sur les plateformes de téléchargement, laissez des notes et des commentaires, ça nous permet de grandir. Donc merci une nouvelle fois pour le soutien. On reçoit un phénomène du trail, aujourd'hui vous le connaissez bien, évidemment c'est Théo Détienne. On l'avait reçu après son UTMB un peu compliqué, cet abandon malheureusement, on va revenir dessus, c'est une sacrée personnalité. Entre-temps, il a terminé deuxième du 138 km Mallorca by UTMB, donc on va débriefer cette course. Et surtout, l'actualité chaude, c'est qu'il a changé d'équipementier. Il a scénarisé tout ça sur les réseaux sociaux. Vous avez certainement vu tout ce qu'il a mis en place, qui était assez marrant. Donc c'est une personnalité forte, quelqu'un d'innovant. Et voilà, donc il va nous régaler. On est très content de l'accueillir dans un instant. Il va nous parler de ses objectifs, son regard sur le milieu du trail. Donc installez-vous confortablement. On y va, on reçoit Théo Détienne. Et il est avec nous en direct de chez lui. Salut Théo!
Salut, merci de me recevoir.
Bah avec plaisir, écoute, sois le bienvenu, on peut encore te souhaiter une bonne année, donc on te souhaite une merveilleuse année 2026, Théo, avec plein de victoires.
Bonne année également à vous tous.
Voilà, tout ce qu'il faut quoi. Bah comment ça va alors? Tu me disais, avant qu'on commence, soulagé d'avoir fait cette annonce, ça y est, tu es officiellement donc un athlète Brooks, t'avais mis en place une sacrée série avec du suspense, t'en avais ras-le-bol à la fin, il fallait que ça se termine.
Fallait que ça se termine, ouais, c'est ça. Non, ça y est, je suis enfin soulagé, apaisé et pour retourner à l'entraînement. C'était compliqué de garder ça pour moi depuis ce temps-là. Donc, je suis content d'avoir pu l'annoncer. J'ai fait le petit teasing sur les réseaux sociaux sur lequel on va pouvoir revenir.
Bien sûr.
Qui était marrant pour mettre un peu en haleine les gens, mais ouais, non, c'était cool à faire. Petit qui a duré quand même 9 jours, ouais, ben ça, voilà, c'est quand même un peu long, j'avoue.
C'est ça. Donc, tu nous as fait beaucoup rire parce que tu t'es mis en scène dans différents métiers, le toiletteur pour animaux.
Voilà. Ah, celui-là, c'est fabuleux.
Ouais. Ah ouais. Aller dans tous les métiers possibles et imaginables. Comment t'es venue cette idée, tout simplement? Tu t'es dit, voilà, c'est une annonce que je veux mettre en scène. Tu t'es mis d'accord avec les personnes de Brooks. Qui a eu l'idée, d'ailleurs?
Ouais, c'est ça. Non, l'idée, elle venait de moi. J'en avais discuté avec des amis. Je m'étais dit, comment est-ce que je pourrais faire pour mettre un peu de teasing avant la prochaine annonce? Donc, j'ai fait mon annonce de départ le 1er janvier de mon ancien équipementier. Et je me suis dit que je voulais instaurer un petit suspense entre les deux et quelque chose de marrant qui me ressemble un peu à mon image. Et il y a cette idée-là qui est venue, c'était un jour un métier. Ça n'a pas été facile à mettre en place parce que je tournais vraiment au jour le jour. Il y en a beaucoup qui se sont questionnés sur comment je faisais, si j'avais des vidéos à l'avance. Alors, pas du tout, c'était pas du tout le cas. Je débarquais vraiment au jour le jour dans les commerces, au culot, en disant « Bonjour, je fais des vidéos sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça vous intéresse que je tourne avec vous maintenant, tout de suite ?» Oui, il faut que ce soit rapide. Donc ouais, c'était un peu le rush, mais c'était marrant à faire en tout cas. Ça m'a appris à faire les montages rapidement, à faire des trucs sympas, donc je me suis régalé quand même à le faire.
Fleuriste, fromager, boulanger, toiletteur, c'est quoi le pire alors? C'est quoi le plus galère?
Toiletteur, c'est pas facile parce qu'il faut quand même être capable de gérer les animaux.
Bon, il y a celui qui a pas été facile aussi. Ouais.
Producteur de lait, c'est pas simple aussi parce qu'être au contact des animaux, c'est des grosses journées très fatigantes. Il y a la première traite le matin, deuxième traite le soir. Donc, ouais, pas facile, mais impressionnant quand même à faire.
Bon, bah, tu t'es régalé, l'annonce est faite. Pourquoi avoir choisi Brooks et avoir changé d'équipementier alors?
Bah, y a plein de raisons, comme je le disais, comme je le répète souvent, c'est que l'année 2025, pour moi, ça a été une année vraiment charnière où je me suis découvert, un peu révélé aussi aux yeux du grand public et sur des formats de course plus longs. Moi, j'avais à cœur, là, depuis quelques années, de monter sur des formats plus longs et cette année, c'était vraiment ma première année en tant qu'athlète professionnel, donc à 100% dédié à ça. Et ça a été vraiment une année de bascule où je me suis rendu compte qu'il fallait faire des choix, prendre des décisions importantes pour la suite parce que j'ai que 26 ans et je sais que la carrière... Enfin, en tout cas, je veux une carrière longue et durable, donc faut prendre des décisions qui vont avec. Et ça passe forcément par l'accompagnement, par les structures qui viennent autour. Et j'avais besoin d'une structure qui soit capable justement de m'accueillir et de me suivre dans ces projets de performance et d'être capable de me suivre là où moi je veux aller. Et je pense où il est bon d'aller pour mon évolution personnelle.
Parce que Théo, c'est pas seulement une personnalité, c'est avant tout un grand athlète, Johan, promis à une grande carrière dans le milieu du trail et de l'ultra-trail. tu te reconnais un peu dans le discours. C'est des moments délicats pour vous, athlètes de haut niveau, ces moments de renégociation de contrat, de changement d'équipementier, de reprendre des habitudes avec des modèles que tu connais pas. T'as l'impression de revivre des trucs que t'as connus, Johan, toi aussi ?
Ouais, c'est pas facile parce que il faut trouver le bon compromis entre l'athlète que t'es, qui est peut-être certain. Enfin, je me reconnais un peu dans en Théo, tu vois, ce côté un peu authentique, qui aime ce qu'il fait, qui le partage très bien. Mais voilà, il y a une partie où tu es obligé de faire du business tout en étant en gardant ce côté, voilà, comme je le disais, assez authentique. Et du coup, faut trouver la marque qui va te correspondre et sur laquelle tu vas pouvoir capitaliser et raconter une histoire et pouvoir communiquer en gardant cette énergie, cette passion de que ça soit sur l'entraînement ou dans la compétition. Et c'est pas évident à trouver. Moi, je sais que j'ai eu la chance de rencontrer Azix à un moment donné de ma carrière qui était un peu délicat. Ils m'ont fait confiance. Et après, du coup, après, une fois que la relation de confiance, elle est faite avec la marque et avec les gens de la marque, hein, c'est souvent quand même eux les décideurs, et que le message passe bien et que tout s'imbrique bien, bah, c'est toujours plus facile. Et c'est vrai que quand tu es athlète et que malheureusement, tu te sens pas à l'aise avec certaines décisions qui sont prises ou avec certains projets et que ça te ressemble pas, eh ben, c'est dur des fois de rester ou donc des fois faut savoir changer la dynamique pour rester un peu soi-même et tout en étant quand même, j'ai l'impression qu'il a gardé quand même ce côté créatif en lui, quoi.
Bah oui, bien sûr, parce que ça fait
le Johan, but, c'est de le garder le plus longtemps possible.
Bah voilà, Johan l'a bien dit,
bah
c'est,
ouais,
que,
c'est, ça, ouais.
C'est qu'il y a aussi la façon dont tu vas raconter l'histoire, dont tu vas pratiquer ton sport, et là il faut être totalement aligné. C'est pas uniquement la marque et la qualité produit, c'est aussi les personnes qui bossent pour cette marque, et il faut que tout le monde soit aligné dès le départ pour que tout se passe bien, Théo, finalement.
Ouais, c'est exactement ça. Il y a tout un écosystème. Nous, ce qu'on voit, c'est la partie, enfin, ce que les gens voient en général, c'est la partie émergée d'iceberg. Simplement l'athlète avec un dossard. Mais derrière, il y a tout un staff. Il y a énormément de gens qui travaillent autour de ça. Et c'est important d'être, que cette, tout l'univers et tout l'écosystème, ils soient en symbiose pour qu'on avance tous dans le même sens.
C'est le paradoxe du trail et de l'ultra trail. C'est que, bah, nous, ça fait quelques années qu'on réalise ce podcast RMC Running. Et on a vu, on a constaté, nous aussi, l'évolution des personnalités du trail. Tu l'as dit, t'es jeune, t'as 26 ans. Quand on a démarré, nous, on a reçu les trailers fantastiques qui sont un peu plus âgés que toi et qui viennent d'un tout autre univers. Il n'y avait pas du tout de développement de réseaux sociaux. Il y en a même qui fuyaient les médias et qui fallait forcer à venir, comme François Hélène, par exemple, ton idole. Et il y a cette nouvelle génération que moi, je trouve géniale, qui participe à la démocratisation comme ça du trail. C'est essentiel pour toi aujourd'hui. Qu'est-ce qui prévaut d'ailleurs entre la perf et le côté réseau, communauté, faire passer un message? Tu restes malgré tout un athlète de très haut niveau, tu as envie de perfer et ça reste la priorité comme ça de tes journées?
Ce qui prévaut, c'est évidemment l'aspect performance, les entraînements, et même autour de ma saison, tout se construit autour de la performance. Mais pour moi, l'aspect création de contenu, réseaux sociaux, partage, elle est hyper importante. J'aime beaucoup partager, la discipline, elle évolue énormément, et j'ai envie à mon échelle de participer à ce changement. On peut le voir des dernières années, comme tu le disais, il y a eu beaucoup de changements. C'est des générations qui sont en train d'évoluer, d'avancer, et qui au fur et à mesure vont remplacer, avec des guillemets évidemment, les plus anciennes générations, les plus anciens coureurs. Tu citais François qui maintenant est un athlète plus que confirmé, mais qui va à un moment forcément passer la main à des athlètes plus jeunes. Et pour moi, c'est important de faire partie de cette évolution-là, déjà parce que j'aime beaucoup partager et j'ai envie de transmettre mes valeurs du sport et les choses qui me semblent cohérentes à transmettre. Ouais.
Question que je me posais en préparant le podcast, Johan, c'est est-ce que ce type de profil, ce serait adapté à la course sur route ? Parce que c'est un peu différent et c'est vrai que dans le trail, on en voit beaucoup. On parle souvent de l'esprit trail qui vous permet comme ça de développer pas mal de réseaux et de personnalités. Il y a peu finalement d'athlètes sur route, Johan, qu'on voit se raconter comme ça sur les réseaux et qui mixent haut niveau et influence réseaux sociaux, quoi.
Ouais, c'est un peu plus compliqué. C'est vrai que le seul qui le fait, c'est Dorian Louvet. Hein.
Ouais,
c'est le seul qui a mis ça en place vis-à-vis du marathon. C'est vrai que le marathon a encore cette... cette image de la performance d'abord du chrono, toujours avoir ce chrono, était vraiment jugé sur le chrono plus que ce que tu vas mettre en place. Et pourtant, je pense qu'il y a quand même des similitudes, hein, raconter une histoire, tu sais, la performance sportive, c'est vrai que le marathonien, lui, il veut montrer, il montre pas son entraînement. C'est dans le haut niveau,
c'est ça la différence, t'as raison.
Il y a peu d'athlètes qui sont 100% ouverts sur Strava, qui montrent leur quotidien, les 2-3 mois de préparation. On veut que juste nos performances se chargent de faire du bruit et pas tout ce qu'il y a autour. Et c'est vrai que, mais ça vient du milieu de la piste, hein, c'est les années, moi je sais quand j'ai débuté, quand tu ouvrais ta bouche, mais tu avais intérêt à perfer, sinon tu passais vraiment pour un tocard et tu te faisais insulter si jamais tu avais tendance à la ramener avant la compète et à dire moi je fais ça, regardez mes séances, ça, et que derrière tu te vautrais, tu prenais un coup de bâton. Alors que je pense que la course à pied, et le trail le fait bien avec les gens comme Théo ou d'autres, tu peux montrer cette énergie, cette préparation, comment tu vis au quotidien avec passion. Et puis c'est un sport, c'est plus facile de montrer des belles images d'entraînement de la montagne que moi quand je suis sur mon canal ligne droite avec 5 km de ligne droite tout droit, en train de claquer du 3-0-3 tout ultra métronome, ultra régulier, où il n'y a pas une descente, pas une montée, rien. Que des images de montagne avec des sauts de cabri en descente. Enfin, tu vois, la montagne est quand même un peu plus vendeur que la route.
Bien sûr.
Mais je pense qu'il y aurait moyen de faire mieux.
Qu'est-ce que t'en penses, Théo ? Ça dépend de la personnalité de l'athlète ou c'est lié à la pratique sportive, alors ?
Alors, la personnalité de l'athlète, pour moi, elle y est pour beaucoup. Ça, c'est une certitude. Après, ouais, la pratique, comme je disais, Johan, c'est assez redondant sur de la route. C'est un peu moins fun. Et les images que tu montres, c'est toujours plus sympa de montrer des belles images en montagne quand tu vas courir dans une grande descente ou dans des beaux paysages qu'autour d'une piste quand tu fais des séances 20 x 400 mètres.
20 x 400,
au final, c'est un peu toute la même chose.
Bien sûr. Et question qu'on doit te poser souvent, mais j'imagine que tu n'es pas du tout dans cet état d'esprit, mais en fait, la communauté, l'influence, les réseaux sociaux, ça ne te rajoute pas du tout de pression au moment du départ d'une course. D'ailleurs, tu as une bonne façon d'aborder les échéances. Toi, tu prends ça vraiment par pur plaisir. On l'a vu au départ de l'UTMB cette année avec ce fameux masque. Il n'y a pas de pression supplémentaire parce que tu es suivi par une grosse communauté sur les réseaux.
Moi, je le vois vraiment pas comme une pression négative, dans le sens où pour moi, toutes ces personnes qui me suivent, c'est vraiment une énergie qui me pousse et à me dépasser pour faire mieux. Je le vois pas comme quelque chose que, dans le sens où je suis obligé de performer pour eux, sinon ces gens-là me suivront pas. Au contraire, je pense que c'est important de montrer qu'on est humain, et tu vois, c'est ce que j'ai réussi à montrer à travers ma vidéo qu'on a faite sur YouTube sur l'UTMB. L'UTMB, j'ai abandonné la course, mais je pense que c'est important de garder le positif, et au final, on peut pas toujours réussir ce qu'on fait. C'est l'échec, ça fait partie justement du chemin et ça rendra les victoires par la suite d'autant plus belles.
Avant de basculer justement sur ce qui t'attend cette année, revenons rapidement sur ce qui s'est passé l'an dernier. Cette UTMB, l'abandon, on t'avait reçu à chaud, donc tu nous avais expliqué tout ça. On se rappelle de ces chutes et de ces douleurs insupportables à la hanche. L'UTMB, c'est vraiment ton rêve, donc ça devait être particulier à digérer. Nous, on t'a eu à chaud, à froid. Est-ce que ça a été dur de se remettre en route alors ? Est-ce que durant 2-3 semaines, t'as un peu accusé le coup ou t'es vite passé à autre chose ?
Alors, dans la tête, je suis vite passé à autre chose, dans le sens où j'ai vite su retenir tout le positif, à savoir que j'avais fait une centaine de kilomètres en tête de course dans un effort vraiment très bien géré.
T'as fait le spectacle, bien sûr. T'étais bien.
J'ai dû abandonner pour quelque chose que je ne contrôle pas. Voilà, tomber dans une descente, se blesser, ça fait partie du jeu et c'est des choses qu'on ne pourra jamais contrôler. Moi, ce que je retiens, c'est que j'ai vraiment réussi à arriver à mon pic de forme de l'année, à savoir que je me suis entraîné toute l'année pour être le plus en forme le 29 août 2025. Ouais. Ça a été le cas, donc je retiens évidemment cette partie-là positive.
Bien sûr.
L'expérience de la course. Et physiquement, par contre, ouais, j'ai accusé un peu plus le coup après la course parce que forcément, la blessure, ça a été compliqué à traiter. J'ai compensé à la hanche de l'autre côté, j'ai compensé sur un genou, j'ai compensé sur une cheville. Donc, ça a été plus compliqué. J'ai dû faire pas mal de rééducation avec le kiné, travailler différemment. Et au final, il y a eu un bon mois où je trottinais. Déjà, juste après la course, il y a eu vraiment 10 jours où c'était impossible de courir, donc j'ai pas pu courir. Et après, la reprise a été très, très progressive. Et c'était compliqué de jouer contre le chrono donc, parce que j'avais la course justement à Majorque UTMB à peine 2 mois après pour aller chercher la qualification pour l'UTMB cette année. Donc la préparation pour Majorque UTMB, ça a été très court. Ça a été à peine 3 semaines. La sortie la plus longue que j'ai faite, ça a été 4 heures. Donc pour préparer un format 140 km, c'est plus que léger. Ouais. Donc j'y suis allé avec beaucoup d'incertitudes. Vraiment, ça a été particulier. Et j'ai jamais été si peu confiant avant un départ, même si évidemment je ne l'ai pas montré. Et au final, je me suis surpris à très très bien courir ce jour-là, malgré le peu d'entraînement.
Juste un dernier mot sur l'UTMB, parce que, ok, il y a la déception, il y a la douleur physique, mais il y a un peu de frustration, parce que comme tu l'as dit, tu as été acteur majeur de la course, tu as longtemps mené, c'est-à-dire que tu as géré ton pic de forme, tu es arrivé très en forme au moment opportun, tu étais dans ta bonne stratégie. Et que finalement, c'est par des chutes que tu t'arrêtes. Quoi. C'est un paramètre extérieur, comme dit Johan. Ce n'est pas une explosion comme tu peux connaître sur d'autres courses. Donc, ça ne rajoute pas de la frustration, ça, justement, de se dire bah, jusqu'où je serais allé si j'étais pas tombé, bah, ça, on ne le saura jamais, quoi, finalement.
Ouais, c'est ça. Bah, ça, c'est la plus grosse frustration, parce qu'on ne pourra jamais refaire le match, on ne saura jamais ce que j'aurais pu faire. En tout cas, quand j'ai abandonné, j'étais encore cinquième de la course. Ouais. C'est sûr que le goût, il est amer, parce que de se dire que. Avant de me faire rattraper par le 10e, par le top 10 de la course, il s'est passé un certain temps. Donc je me suis dit qu'au final, même en explosant la place, je pense que l'issue, elle aurait été belle. On ne va pas refaire le match après. Dans tous les cas, ça s'est fait comme ça. Mais ouais, ça a rajouté cette frustration qui a été difficile un peu à digérer. Mais j'ai réussi à vite passer à autre chose et en tirer le positif, parce que le plus important, c'est d'aller de l'avant.
Eh oui, parce que donc, tu as brillé, tu l'as dit, avec 3 semaines d'entraînement sur cette course à Majorque. Le profil, c'est 138 km, 5300 de D+. Cette deuxième place, justement, qui est une sorte de lot de consolation, comme tu l'as dit, prépa perturbée, place d'honneur sur cette épreuve, avec une prépa minimale. Là, tout était réuni et ça a confirmé que ton niveau était bien présent et que tu pouvais faire de grandes choses. Tu avais déjà un socle d'entraînement qui était déjà présent, quoi.
Ouais, c'était le challenge vraiment de cette course. C'était déjà le premier, c'était d'aller chercher la qualification, mais surtout de me reprouver à moi-même que j'étais capable d'aller chercher de la performance. Hannes Namberger, celui qui gagne la course devant moi, ouais. c'est un grand athlète. Il a déjà terminé 4e de l'UTMB en 2024. Cette année, c'était son objectif de saison parce qu'il était blessé en début d'année, donc il est arrivé là-bas très très en forme. Il avait repéré tout le parcours. Moi, j'ai débarqué sur l'île 2 jours avant la course. Vraiment très peu confiant, pas assez entraîné.
Il y a moins de 20 minutes d'écart, hein, je le précise d'ailleurs.
Moins de 20 minutes d'écart, voilà, il me décroche à peine 20-25 km de l'arrivée. Donc j'étais plus que satisfait de ma performance ce jour-là, étant donné les conditions de préparation. Ouais, mais c'était le défi de me prouver, surtout à moi-même, que j'étais capable de recourir comme ça.
Johan, il n'y a rien de tel pour le moral. Hein. Tu subis un échec sur ton événement de l'année, tu arrives à rebondir peu de temps après avec une place d'honneur. Ça, c'était le top pour repartir de l'avant.
Ouais, il n'y a pas mieux. Après, c'est vrai que voilà, l'abandon à l'UTMB, c'est vrai que pour le digérer, il n'y a pas mieux que de se remettre en selle et de repartir au combat et de reperformer derrière, même si justement, au moment de la course, t'es pas confiant. Tu te dis, bon, ben voilà, j'ai pas pu faire ça. Ah, ça va peut-être être compliqué. Et au final, tu te rends compte que comme la prépa de l'UTMB, elle avait été très bonne, eh ben derrière, tu capitalises en fait. C'est comme si tu bâches un marathon au 32 et qu'un mois après, tu surfes un peu sur le pic de forme de ton marathon et t'en refais un autre et tu fais un chrono correct. Et effectivement, du coup, ça prouve bien que l'échec de l'UTMB, c'est lié à des paramètres extérieurs et non à un problème de préparation générale, physique, un manque de volume ou manque de bornes. Et donc, du coup, il faut se dire que la saison a été belle et qu'il manque la cerise sur le gâteau qui est fait que c'est un sport, ça se saurait, hein, si l'UTMB c'était facile et qu'il n'y avait pas de couac et pas de difficultés, tout le monde le ferait. Donc du coup ça rassure quand même dans le sens où tu te dis ma saison elle a été très bien construite, le pic de forme était là au bon moment, j'ai pas capitalisé le jour J, j'ai capitalisé 2 mois après, mais c'est encourageant pour la suite. Ouais.
Il y a eu un pic sur une semaine à 45 heures d'entraînement, hein, Théo, pour l'UTMB. 45
ouais, c'est
heures.
Ça, les plus grosses semaines ouais, pendant l'été. Bon, ça fait beaucoup de volume, mais c'est
après,
on s'entraîne à l'encaisser durant toute l'année.
Voilà, ça c'est sûr. parlons de la suite. Justement, 2026, les grandes échéances. Le ticket pour l'UTMB a été décroché à Majorque.
Donc ça, c'est bon.
Donc, c'est la priorité absolue de la saison.
Ouais, ce sera la priorité absolue de la saison en 2026. Retour à l'UTMB. avec l'envie de mieux faire, de voir la ligne d'arrivée, cette fois et de terminer la boucle quand même, avant tout. Mais ouais, ça m'a permis de rentrer dans l'hiver vraiment sereinement, de me dire que j'ai pas besoin d'aller chercher ma qualification tardive en début d'année comme certains athlètes vont le faire. Ouais. Ça met beaucoup moins de pression et ça permet de se concentrer 100% sur la préparation sans devoir jongler sur des courses qui n'étaient pas prévues initialement. Donc là, ce sera le point d'exclamation de la saison, construire un pic de forme pour cette date-là et pas avant. Il y aura évidemment des courses de préparation avant qu'on est en train de terminer,
tu sais un peu,
de définir.
Ah, t'as pas fixé
non,
le
on
calendrier
est en train de terminer, ouais, de fixer tout le calendrier. Moi, j'aimerais bien prendre plus de distance entre ma dernière course de préparation et l'UTMB. L'année dernière, j'avais couru le 90 km du Mont-Blanc, donc deux mois avant l'UTMB. Je l'avais vraiment bien toléré, j'avais su bien récupérer. Mais cette année, j'ai envie de faire différemment pour me laisser plus de temps et pouvoir me permettre de prendre un peu mes distances et me mettre dans ma bulle et de préparer les choses plus structurées. Parce que je me suis prouvé que j'étais capable de faire des semaines d'entraînement assez correctes. Ouais. Donc ouais, je pense que la dernière course, ce sera plus courant mai. Et après, je rentrerai un peu dans ma grotte pour préparer l'UTMB. Après, fin d'hiver, j'aimerais bien me faire un semi-marathon. L'année dernière, je m'étais fâché avec le format marathon à Londres que j'avais
Avant de parler, bien sûr.
Avec lequel j'avais vraiment eu du mal. Il avait fait chaud, c'était vraiment pas simple. Après, super expérience, mais pour un coureur comme moi, c'est très difficile d'encaisser une prépa marathon durant l'hiver.
Mais bien sûr.
Parce que le volume pour aller chercher un chrono sur marathon, vous le savez, il doit être important et la prépa, elle laisse pas place au hasard. Donc, c'est compliqué, surtout pour moi qui fais beaucoup de ski l'hiver et qui met beaucoup de volume sur cette partie-là. Donc, le format semi-marathon, c'est quelque chose qui, je pense, sera beaucoup plus digeste et que j'aimerais me placer là sur la fin d'hiver.
Ça peut aller très vite, hein, parce que tu étais parti très fort au marathon de Londres, on va en reparler, mais voilà, sur des allures 3,15, 3,10, 3,12, donc c'est vous dire, et ça a tenu combien de temps d'ailleurs? Ça a tenu 25 bornes, 21 km, c'est ça à peu près?
J'ai sauté au 25e, ouais.
Ouais, c'est ça. Mais ça sera intéressant d'en parler, parce que marathon plat, marathon à perf Londres, et finalement, cette coupure d'énergie, cette douleur musculaire que tu n'avais jamais ressentie. Donc c'est vraiment des efforts qui sont complètement différents, mais c'est passionnant ce que tu dis dans la construction de ta saison, parce que je pense même aux trailers amateurs qui nous écoutent, ne pas placer une compète trop près comme ça de l'objectif. Il y a l'Alsace peut-être où tu avais brillé aussi, l'UTMB Alsace, est-ce que c'est dans un coin de ta tête, est-ce que tu pourrais y aller, c'est un peu plus tôt dans la saison, c'est une bonne opportunité?
C'est un peu plus tôt, ouais, mais j'ai envie de changer, j'ai pas envie de refaire les mêmes courses d'année en année. Ouais, c'est une course que j'ai déjà faite, sur laquelle j'avais pris beaucoup de plaisir. C'était un format assez roulant comparé à d'autres courses, mais les sentiers sont magnifiques et dans une prépa, ça reste cohérent, ouais, mais ce sera pas ça, je pense, cette année.
C'est bien parce que c'est un peu la même approche que toi, Johan. T'es toujours réfractaire aux courses de prépa qui sont un peu trop proches de l'objectif. Nous, on parle plutôt de prépa marathon dans ce cas-là, mais... Parfois, ça peut être une fausse bonne idée, quoi, de se dire je vais me rassurer là, parce qu'au final, on y va tous et on le fait un peu à fond, et puis on peut le payer sur une fin de prépa, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est dur, c'est un juste milieu à trouver. Il faut, il l'a bien expliqué, hein, soit tu prends le risque de faire une compète assez proche de l'événement, et derrière, ça te gratte un peu. Ta grosse partie de prépa où tu te mets vraiment dans ta bulle et où t'es focus sur l'objectif à venir. Voilà, donc faut savoir jongler entre les deux et c'est bien d'alterner des fois. De l'année dernière, ils ont fait ça et donc l'année prochaine, ils mettent un autre système en place et peut-être que effectivement le fait de courir plus tôt, parce que malgré tout le marathon du Mont-Blanc, c'était quand même 90 bornes. C'était fin juin, donc deux mois avant. Ouais. Même si tu dis que tu le sens que tu récupères bien, mais tu récupères bien aussi parce que ça s'est super bien passé, parce que tu as gagné et tout, et que c'est le mental est aussi prend une part importante dans la récup à se dire ouais finalement ça va et tout. Alors que s'il avait fait deux ou troisième dans le même chrono, il se dirait « Ah putain, finalement, ça laisse peut-être un petit peu plus de traces et tout. » Tu sais, c'est au fond de toi, le corps, des fois, il y a la psychologie et il y a le ressenti. Et des fois, dans les data, dans les données, des fois, tu es un peu moins bien en fait que ce que tu peux ressentir parce que toi, tu te dis « Oh, c'est bon, j'ai gagné, j'ai bien récupéré, c'est nickel. » Et pour le coup, des fois, voilà, c'est pour ça qu'il faut savoir alterner. Ouais.
À quoi ressemblent tes semaines d'entraînement en ce moment, Théo? Du coup, c'est beaucoup de volume, beaucoup de ski. Là, tu construis la caisse pour 2026?
Ouais, c'est exactement ça. L'hiver, je jongle entre ski et course à pied. Ça me permet de faire pas mal de volume sur un sport porté. Ouais. Le ski de randonnée, c'est pratique. Ça permet de quasiment doubler les volumes sur les séances parce que les montées, forcément, elles sont à même vitesse, mais les descentes, elles sont beaucoup plus vite et sans impact. Donc, on récupère beaucoup plus facilement. On peut faire plus de volume, c'est plus lisse. Et après, non, là, sur à pied, en ce moment, je suis plus sur des périodes de reprise de vitesse, avec aussi en parallèle pas mal de musculation en salle, pour préparer et bâtir un peu les fondations pour l'été. Ça, c'est vraiment la partie en ce moment sur l'hiver, donc jongler entre le ski, la course à pied, que ce soit en trail et à plat. Je garde les deux parce que j'ai quand même cet objectif en sortie d'hiver de me caler un semi-marathon. Donc, pas laisser de place au hasard et quand même reprendre le plat assez tôt parce que ça va vite arriver. Et après, plus on va avancer dans l'hiver, plus je vais basculer sur un pourcentage plus penché sur la course à pied plutôt que sur le ski.
Et pour un mec comme toi qui vise la gagne à l'UTMB, combien de temps dure une prépa spécifique UTMB alors ? Tu considères que la prépa spécifique démarre quand exactement ?
Je considère qu'elle s'est terminée quand j'ai abandonné à l'UTMB l'année dernière. Donc ça, c'est long. La prépa, elle avait déjà commencé. Non, la prépa, en vrai, elle est toujours en place. Moi, quand je commence... En fait, quand j'ai terminé la saison à Majorque UTMB, qui était vraiment la dernière course de la saison, j'ai été à Oman avec des amis. On a fait une course plus pour profiter. Donc, il n'y avait pas d'objectif. Mmh. J'ai pris le temps de récupérer de ça. Et à partir du coup, mi-décembre, pour moi, dans ma tête, j'étais déjà dans la bascule préparation UTMB. Et à partir de mi-décembre, fin décembre, tout ce que je fais est calqué pour préparer l'UTMB. Et le reste, ça reste... que de la préparation est superficielle entre guillemets.
Ouais. Mais le travail de côte, d'allure, de tout ça, de course à pied spécifique, c'est au début du printemps, quoi. C'est ça. Donc c'est fin mars.
C'est au début du printemps. Ouais. Voilà. L'hiver, c'est plus les fondations et après la partie spécifique, elle arrivera fin mai, courant juin et après les deux mois d'été, ce sera vraiment axé 100% prépa spécifique UTMB.
Alors, je suis très content que tu sois là parce que nous, on fait ce qu'on peut en termes de trail. On reçoit beaucoup d'invités comme toi pour essayer de progresser sur ce secteur qu'on connaît assez peu. En revanche, on a un vrai expert de la route et du marathon. Donc, c'est sympa un peu parce qu'il y a toujours cette comparaison qui est faite entre les deux efforts. Et certains vont te dire que l'ultra, c'est une aventure longue. Il y a beaucoup de paramètres à gérer et c'est fascinant. C'est très, très, très compliqué. Et c'est ce que pense Johan notamment. D'autres te disent que l'effort du marathon est très spécifique et ça reste une difficulté maximale quand tu le prépares à fond. Toi, tu as un peu de recul sur les deux. Quel est ton avis ? Comment tu différencies comme ça les efforts entre un 100 miles et un marathon couru à fond alors ?
Alors pour moi, c'est deux sports quand même différents, totalement. Ouais. En fait, c'est des intensités qui sont différentes, des exigences qui soient musculaires, articulaires, différentes aussi. Sur des formats marathon, on est sur une allure qu'il faut être capable de tenir de manière intense sur une courte durée. Parce qu'au final, quand on court pour les meilleurs, entre 2h et 2h30, c'est des temps d'effort que je considère courts par rapport à ce que je fais, mais
ton objectif,
qui reste long.
Que tu peux viser de 20, dans ces chronos-là, j'imagine. L'objectif à terme sur marathon, ce serait ça, quoi.
Ouais, l'année dernière, sur Londres, je visais aux alentours de 2h16 pour un premier marathon, c'était peut-être un peu ambitieux.
Ah oui, 2h16
enflammé après. Après sur la prépa, c'était plutôt cohérent. Ouais. L'erreur principale que j'ai faite, moi, c'est de m'être entraîné beaucoup sur tapis.
J'ai
donc
vu,
en fait toutes les allures, les allures spécifiques que j'avais faites, elles étaient très bien calibrées, même au lactate, tout était assez cohérent et au pulse aussi. Mais en fait, ce que j'ai vraiment négligé, c'est le côté terrain, à savoir faire des longues séances sur goudron. Musculairement, ça n'a rien à voir avec l'impact du tapis et je m'en suis rendu compte tout de suite à Londres le jour du marathon. Donc, ça, c'est une erreur que je ne referai pas par la suite, c'est sûr. Mais en tout cas, c'est des formats qui sont pour moi vraiment différents. Mais je reste quand même persuadé que pour être capable de jouer la performance sur des formats, même 100 miles, typiquement sur un UTMB, il faut être capable de courir vite. On l'a vu, les anciens vainqueurs comme un Jim Wemsley, qui est capable de courir 2h12 au marathon. Tom Evans, qui gagne cette année, il voulait faire Valence, malheureusement, il n'a pas pu y aller. Mais c'est un coureur qui voulait viser moins de 2h10 sur marathon.
Ouais, j'avais vu ses séances, c'était costaud aussi. Ouais.
Ah ouais.
Ouais, ils visaient moins de 2h10. Enfin, c'est des coureurs qui sont capables d'aller très vite et parce que c'est important. Au final, quand on regarde les allures, même sur un format à l'UTMB, à plat, ça court rarement.
Ah, bien sûr.
Ça court aux alentours de 15 km heure à plat. Donc,
c'est
un format de course de 20 heures, ça reste rapide. Et si on n'est pas capable d'être en gestion totale à 15 km heure, on ne pourra jamais aller jouer la gagne. Donc, il y a des parallèles qui sont faisables entre les deux quand on cherche la performance, évidemment. Mm. Mais ça reste des choses qui sont différentes. Je pense que l'un va bien avec l'autre. Même si ça reste des intensités différentes et des exigences différentes. Le goudron, un marathon, c'est hyper traumatisant. Même si on dit que le trail, c'est un sport très traumatisant dans les descentes, c'est vrai. Mais je pense que c'est quand même beaucoup moins traumatisant que quand on fait une prépa très spécifique sur de la route pour un format marathon où les impacts ils sont permanents au quotidien. Tandis que nous, dans les montées, on va être plutôt sur de la marche rapide ou un peu du trottinet, voilà, sur de la gestion qui est différente.
C'est quand même bluffant, hallucinant, le niveau comme ça des trailers sur route, parce que là aussi, ça nous donne une idée de l'athlète que ça représente. Et même chez les triathlètes, on l'a vu avec Alexis, nous, on était à Valence avec Johan.
Ah oui.
Chrono monstrueux, deuxième chrono britannique de l'histoire, alors que le gars est triathlète. Enfin, ça,
ouais, c'est monstrueux.
Ça nous permet de faire quelques comparatifs sur le niveau de performance de ces gars-là, quand même, Johan. C'est assez bluffant. Hein.
Ouais, alors après, voilà, c'est une génération qui arrive en étant elle-même coureur. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a 10 ans, les Xavier Thévenard, François et tout ça étaient des purs trailers, ouais, issus de la montagne et qui venaient vraiment du microcosme de la course en montagne et du trail. Alors que là, il y a une génération de coureurs et on les voit aujourd'hui s'imposer sur l'ultra, qui viennent aussi de la clé, ouais, du monde un peu, ouais, de l'athlé, et qui ont des performances de l'athlé, hein, même Kylian à un moment donné a couru moins de 30 au 10K, effectivement là vous avez cité les perfs, mais voilà, maintenant un trailer il court entre 2,10 et 2,15 au marathon, il court une 3, une 4 au semi, c'est des perfs très très fortes sur la route. Alors que dans l'autre sens, je pense que le passage est beaucoup plus compliqué et c'est pour ça que pour l'instant, personne s'y est vraiment risqué, à part Duncan, mais bon, c'est Duncan, donc on connaît le phénomène, donc on reviendra pas sur son épisode de 2024. Mais voilà, pour l'instant, il y a eu peu de marathoniens qui, à l'inverse, sont partis tester le truc, parce que comme l'a dit Théo, c'est deux sports totalement différents. Et il faut le préparer. Et pour l'instant, aucun marathonien s'est encore risqué à faire 6 mois de prépa ultra, un trail ou ultra pour s'essayer un peu. Duncan l'a fait, mais un peu par hasard, parce qu'il s'est retrouvé à gagner l'UTMB de Saint-Jacques, et puis s'est retrouvé à l'UTMB, et puis est parti avec des chaussures plaques de carbone dans Chamonix, quoi.
C'est Duncan, quoi. Voilà, exactement. Non, mais Théo, ton discours est passionnant, et nous, on avait parlé avec Mathieu Blanchard à l'époque, qui lui aussi avait fait un peu le même choix à un moment. Il était passé par le marathon de Paris pour préparer un ultra. Et c'est-à-dire que vous le voyez vraiment comme une arme de plus dans votre arsenal. Aller développer la vitesse, oui, sur la route, sur le plat, et comme ça être capable de répondre quand ça attaque et quand il faut envoyer sur une longue épreuve comme celle qui vous attend, quoi.
Ouais, pour moi c'est indispensable et ça reste une corde de plus à notre arc, parce que quand on le voit même dans les descentes qui sont assez roulantes sur l'UTMB, ça va vite, faut être capable d'être en gestion sur des allures assez élevées, et ça c'est quand même hyper important, et ça passe forcément par un travail de vitesse sur de la route. Ça peut pas venir d'ailleurs.
Tu y prends du plaisir ? C'est une partie de l'entraînement que tu apprécies, ou c'est tu le fais parce qu'il faut le faire ?
Non, non, j'aime beaucoup. Moi, de base, je viens de l'athlétisme. J'ai,
ouais,
commencé.
Ouais, il vient du tri, même. Oh, j'ai vu une photo à Bergerac sur son vélo.
Ah oui, c'est vrai.
Le tri, c'est venu après. Tu vois, j'ai vraiment commencé école de l'athlé. Ouais. J'ai fait section sportive au collège en athlétisme. Et puis après, quand je suis rentré au lycée, je me suis mis au triathlon. Et effectivement, ouais, la story dont il parle, il m'a envoyé un message hier sur Instagram. J'ai publié une photo là, de, quand c'était les championnats de France de. Je sais plus si c'était les championnats de France de duathlon ou de triathlon que j'avais fait à Bergerac. Okay. Dans duathlon ou au triathlon, je sais plus, okay, ce que c'était, à Bergerac.
J'ai reconnu le caillou.
C'est là où tu t'entraînes. Ouais. Mais ouais, il y a eu cette période-là. Et après, quand je suis arrivé à Font-Romeu pour mes études supérieures en STAPS, c'est là où j'ai vraiment découvert le trail. Donc non, ouais, je prends beaucoup de plaisir à courir sur de la route, parce que pour moi, c'est différent. Enfin, j'ai toujours adoré courir sur piste, ouais, les crosses, la route. Pour moi, c'est un univers dans lequel je me sens bien, parce que c'est là où j'ai commencé. En revanche, je pense que si on vient du trail et qu'on vient dans l'univers de la route, du cross-country ou de la piste, je pense qu'il y aurait un peu plus de réticence, parce que c'est des mentalités qui sont différentes aussi. Ouais. Où c'est pas simple pour tous les trailers de venir se comparer vraiment avec précision, parce que quand on est sur une piste, le chrono il est parlant, on peut pas s'échapper. C'est pas pareil dans une montée en montagne. Donc moi, j'aime beaucoup cet aspect-là, chrono et performance pure. Mais c'est pas valable pour tout le monde. Ouais, donc je prends du plaisir sur ça. C'est ça.
Quel conseil, toi, tu donnerais à notre ami, le grand Johan Durand, qui a pour objectif cette année, à court terme, d'aller chercher tous les records master, donc dans sa catégorie, les records de France sur 10, sur semi, sur
des
marathon.
Vieillards.
Voilà, chez les papys avec des cannes et des labradors. mais qui veut basculer ensuite sur trail. Alors déjà du trail court, et puis après, pourquoi pas un peu plus long. Un profil comme Johan, tu lui conseillerais quoi alors pour s'y mettre? Quels seraient le bon entraînement à mettre en place et les principaux conseils comme ça que tu pourrais lui donner, Théo?
Physiquement, déjà, je pense qu'il n'aura aucune difficulté. Je pense qu'il faudra travailler en plus, c'est l'aspect technique et fondation musculaire, dans le sens où les routards, en général, il y a moins cette capacité à développer de la puissance et de la résistance musculaire dans les descentes, ce qui peut poser problème et engendrer après des risques de blessures. Et la technicité dans la partie sentier technique, être capable d'évoluer dans les cailloux et dans un environnement instable, ça, les chevilles, ça se tord vite. Et surtout quand on le travaille pas. Donc je pense que ouais, ce serait faire du travail vraiment purement technique et bosser sur la partie résistance musculaire, parce que physiquement, j'ai aucun doute que les coureurs à plat ont cette capacité à être très performants dans les bosses, parce que ça reste purement physique. Et même si évidemment il y a le travail des chaînes postérieures et développement des quadris qui sera important, ça en se mettant à l'activité, ça vient tout seul. Et parce qu'ils ont les bases d'endurance et d'explosivité qui viennent quand même avec. Donc ouais, non, bosser la technique et voilà, la résistance musculaire.
Est-ce qu'il faut que je déménage à Chamonix?
Ah oui.
Déménage à Chamonix, c'est indispensable. Si tu restes à Bergerac, ça va être un peu complexe.
Non, ouais, c'est compliqué.
En vrai, je plaisante, ça se fait très bien, il y en a de plus en plus.
Non, bien sûr.
Évidemment, qui habitent en ville, c'est une plaisanterie.
Toi, t'as préféré les Alpes à rester à Font-Romeu?
Ah ouais, c'est vrai.
Comment tu t'es retrouvé là-bas?
Ah, ça c'est... Alors, moi, de base, alors, comme je te disais, j'ai fait Staps à Font-Romeu, donc j'habitais 5 ans là-haut. Et après, moi, j'ai déménagé dans les Alpes parce que je suis rentré en gendarmerie, donc je préparais les concours pour le secours en montagne. Donc, j'ai été amené à bouger dans les Alpes. Le centre de formation est à Chamonix. Et pour faire de l'alpinisme un peu plus engagé, il faut forcément se rapprocher un peu du coin, même s'il y a de quoi faire dans les Pyrénées. C'est quand même des montagnes qui sont différentes. Font-Romeu, non, c'est un très bel endroit.
Bon, c'est le paradis, non? Franchement,
c'est le paradis. C'est les plus belles, comme j'aime le dire à chaque fois avec mes potes avec qui on était au stop, c'est les plus belles années de notre vie.
Ah ouais.
Et c'était magnifique pour s'entraîner. Il y a tout ce qu'il faut. Exactement, ouais.
Tu le connais, ce crêpe avec des couleurs un peu anciennes, tout ça, là? Tu connais cet endroit?
Le couloir, couloir de la piscine.
Ouais, voilà, le couloir de la piscine. Ouais, incroyable. Ah ouais, ça c'est fou.
Non, ouais, je connais bien. Ah bah, c'est des belles années, ouais, c'est sûr. Ouais,
c'est chez Johan, évidemment.
Mais par contre, effectivement, je pense que le jour où je vais basculer, j'ai mon petit plan dans ma tête, c'est de me dire je vais aller m'entraîner pendant 4, 5, 6 mois. Presque vivre à Font-Romeu, pour justement, il a raison, nous, c'est vraiment le côté casse musculaire qu'il faut qu'on bosse, le dénivelé et découvrir justement, ouais, de faire ces sauts de cabri là, dans les cailloux quand je vois les vidéos, mais je me dis, en vrai, c'est impossible.
Ah ouais.
Avec mon tendon d'Achille et mes chevilles un peu, enfin non, j'ai jamais eu de problème aux chevilles, mais au tendon d'Achille, et je me dis faire ces espèces de rebonds là, je sais pas. Ou alors je vais finir la tête.
Il y aura 2-3 gamelles impératives, hein, ça arrivera,
ah ouais.
C'est sûr. Mais bon,
t'es obligé d'y passer.
Voilà, il faudra se relever, mais c'est vrai que ça fait partie du spectacle. Et d'ailleurs, c'est de mieux en mieux filmé. Hein, allez sur la chaîne YouTube, vous la connaissez certainement, mais Théo ramène à chaque fois de belles images. Même les organisations de course, on peut féliciter l'UTMB pour tout le travail qui est effectué.
Ah,
ça devient passionnant de suivre les épreuves UTMB tout au long de cette semaine.
C'est vraiment facile à suivre.
Ouais. Ah, c'est magnifique, ouais. On comprend toute la course, tout est clair. On se passionne comme ça de suivre la course en tête, que ce soit homme ou femme, dans les descentes. Vraiment, c'est une épreuve sportive magnifique. Si vous aimez le sport, vous allez forcément être passionné par ça. Donc, allez le suivre parce que c'est vraiment magnifique. Quel conseil, en revanche, Théo, tu donnerais à tous ceux qui t'écoutent, les trailers amateurs qui vont préparer comme ça un grand trail dans l'année, à l'UTMB ou ailleurs? Bon, la période est un peu particulière parce qu'on est dans les bases et les fondamentaux, ça va plutôt se passer cet été. Mais quels conseils généraux tu donnerais donc sur une prépa d'une longue distance, d'un 100 miles par exemple, ceux qui vont s'élancer pour la première fois cette année?
Alors, ce que je conseillerais, c'est de ne pas vouloir s'enflammer et de ne pas vouloir trop en faire à l'entraînement.
Ouais.
C'est pas parce qu'on va s'épuiser à l'entraînement qu'on sera plus performant le jour de la course. Et puis aussi, même ce que j'aime beaucoup à rappeler, et ce qui est important pour moi de dire, c'est que les formats 100 miles, c'est pas une finalité en soi. Il y a déjà largement des très belles courses de format de moins de 100 km, format marathon, 20, 15 km, sur lesquelles on peut profiter, prendre beaucoup de plaisir. Mais ouais, faire les choses progressivement, c'est la clé. Comme dans toute discipline, pas vouloir aller trop vite. Parce que si on passe de sorties 5-10 km, à d'un coup on va se mettre à faire des sorties de 20-25 km, forcément le corps il pourra pas suivre et ça va engendrer des blessures et forcément ce sera un peu plus compliqué par la suite. Donc ouais, garder cette notion de progressivité et pas vouloir aller trop vite, et c'est pas parce qu'on voit quelque chose sur Strava ou sur Instagram qu'il faut vouloir le faire impérativement.
C'est fait par des professionnels.
Surtout quand on suit les maboules. Hein. Faites
ouais,
attention.
C'est ça, ne
même.
Recopiez pas.
Voilà, exactement. Une pensée pour notre ami casquette verte. Parlons ouais, de ta prépa à toi, Théo, parce que quand une prépa s'est très bien passée, qu'on a eu le pic de forme le jour J, bah on a peut-être envie de faire la même chose. Est-ce que tu vas apporter des changements? Ça, c'est un éternel débat aussi. Est-ce qu'on conserve une prépa qui a fonctionné ou est-ce qu'on la modifie pour ne pas retomber dans une sorte de routine?
Alors, dans les grandes lignes, la prépa va rester quand même globalement similaire. Cette année, le fait de garder une course encore plus en amont de l'objectif de l'UTMB, ça me laissera plus de temps pour faire des cycles plus longs. C'est ce qui, je pense, m'a manqué un peu pour être encore plus performant, même si j'étais très satisfait de ce que j'ai fait. C'est travailler sur des cycles de prépa plus longs, sur des cycles ouais, plus longs en général, tout court. Et de travailler plus en spécifique sur le terrain, ça c'est ce que je vais essayer de mettre en place aussi cette année. Donc à savoir répéter les chronos sur le parcours en lui-même, même si j'ai déjà fait des repérages et que je le connais déjà par cœur. Je pense que c'est important de travailler en conditions encore plus réalistes de ce qu'on va rencontrer le jour de la course. Mais globalement, la prépa restera à peu près la même, même si je vais rajouter plus de précision dans tout ça.
Est-ce que l'un des axes prioritaires de ta saison, c'est de continuer à faire progresser Clem qui court, d'ailleurs?
Ouais, bah ça reste quand même hyper important pour moi s'il veut devenir performant un jour aussi. Non, je plaisante.
voilà, un petit taquet,
ah, il a pris
crac.
Une balle perdue, il a rien demandé.
Non, mais parle-nous de cette relation qui est magnifique et qui est très bien racontée. Vous reflétez parfaitement cette nouvelle génération et puis il y a beaucoup d'authenticité dans ce que vous faites. Il y a du second degré et puis il y a surtout de la bienveillance. Pardon, c'est ça que j'ai envie de mettre en avant. C'est que finalement, bah, tout est là pour réunir les gens et c'est le principal, quoi.
C'est exactement ça. Et ça, c'est ce sur quoi moi, j'ai envie de mettre l'accent. Et c'est pour ça que Clem, il est arrivé au final assez récemment. Ça fait à peine un an, enfin un peu plus d'un an qu'il est vraiment sur cette scène médiatique. Et maintenant, il a pris une place qui est énorme. Et selon moi, il met en avant toutes ces valeurs qui, pour moi, sont importantes d'être mises en avant, à savoir bah, le partage, le plaisir. Et si, en fait, si au final, on vient sur une course, c'est pour prendre du plaisir, ramener des belles émotions et des beaux souvenirs à la maison. Et ça, c'est ce qu'il arrive très bien à mettre en avant à sa manière. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce petit duo, entre guillemets, qui s'est formé cette année et qui plaît beaucoup. En tout cas, nous, on prend beaucoup de plaisir à partager des moments ensemble et transmettre ça sur les réseaux sociaux avec du contenu.
C'est lequel le meilleur à Call of Duty, alors?
Ah, j'ai été obligé de m'incliner cet été, mais bon, j'aurai ma revanche. Ouais.
Merci Théo, et on passe tout de suite au bon plan matos.
RMC, le bon plan matos.
Et c'est la marque Cruel Pancake qui a l'honneur aujourd'hui avec son fondateur Hugo Philippe. Salut Hugo.
Et salut les gars.
Sois le bienvenu dans RMC Running. Donc Cruel Pancake, cette marque lifestyle que tu as fondée il y a plusieurs années déjà, Hugo. Hein.
Ouais, c'est ça. Ça va faire 6 ans maintenant qu'elle existe.
Voilà. Et tu as voulu te diversifier et te lancer donc dans le sportswear, des vêtements désormais adaptés à la pratique sportive et donc à la course à pied.
Ouais, absolument. De base, c'est une marque Cruel Pancake qui est davantage lifestyle, où je fonctionnais à base de drop et avec davantage du molleton, donc des hoodies, des t-shirts, des sweats un peu oversize. Mm-hmm. Et de par ma pratique, parce que je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de sport,
ouais,
notamment du running. Là, je prépare, tu vois, 2 marathons cette année, un semi. Donc, j'avais à un moment donné, je me suis dit, bon, j'en ai marre de tester toutes les marques du marché sur la gamme athlétique performance. Et j'ai une marque de fringues et j'en fais même pas. Donc, ça serait peut-être intelligent d'aller d'en lancer une. Et puis les gens me le demandaient en permanence. Donc,
bah oui, bien sûr.
Donc c'est arrivé un peu comme ça, de manière un peu naturelle.
Bah, parle-nous un peu de ta pratique en 2 mots, du coup. 2 marathons, tu vas courir où?
Ouais, je fais le marathon de Paris, qui sera mon premier.
Ouais.
Donc on a en avril. Et après, j'ai le marathon de Chicago en octobre.
Magnifique, bah, c'est deux bons choix.
Un des majors.
Ouais, bravo. Ouais. Deux bons choix.
Merci.
C'est ta découverte du marathon? T'as pas encore fait de marathon?
Ouais. Non, j'en ai jamais fait. Non.
Bon, bah, tu vas te régaler.
J'en ai jamais fait. Après, je viens d'athlétisme, donc j'ai fait 7 ans de demi-fond par le passé. Puis là, je cours déjà entre 50 et 60 km semaine, donc j'ai quand même. Je pars pas de zéro. Oui. J'ai fait pas mal d'Irox dernièrement, c'est ça qui m'a redonné un peu le goût au running, donc non, ça va être cool, j'ai très hâte.
Bon, bah, t'as bien raison. Parle-nous de cette gamme, du coup, qu'est-ce qu'on y retrouve? Du short, du débardeur, quoi d'autre?
Ouais, c'est ça. Grosso modo, il y a. Alors, j'ai pas fait beaucoup. C'est un premier drop, donc une première collection. Mm-hmm. Je l'ai pas fait super hivernale pour le coup, à part un Kawaii. On a un super Kawaii qui est hyper cool, hyper technique et que les gens adorent. Mais sinon, on est sur. Et sinon, on est sur. Ouais, il y a un short avec un short racing, donc le petit short de vrai marathonien pur et dur, avec un singlet. Ça, c'est plus pour les jours de course. Et puis après, c'est davantage des vêtements qui sont un peu seamless, donc qui sont stretch et qui sont hyper agréables pour des entraînements hybrides. Donc pour aller courir, comme pour aller à la salle, comme pour faire de l'aerox. Comme j'ai une pratique justement un peu hybride, je voulais quelque chose de très. Très basique, très technique, très sobre, parce que la première collection, c'est principalement des vêtements noirs.
Ouais, c'est ce que j'ai vu.
Ouais, et de commencer, si tu veux, avec des vrais basiques qui durent dans le temps, que les gens gardent. Et pour le coup, tous les retours qu'on a sont vraiment excellents et les gens sont en comme on est une marque 100% digitale, les gens sont souvent très surpris par la qualité parce qu'ils ne s'attendaient pas à un tel niveau. Donc, c'est super cool pour un premier lancement, entre guillemets.
L'enjeu pour toi, c'est la qualité produit et la durée de vie. Ouais. Donc, est-ce que ça, tu as pu l'estimer? Ouais, ouais. Est-ce que tu as des réponses à me donner là-dessus?
Bah ouais, j'ai pu l'estimer parce que déjà, ça va faire 2 ans que je travaille là-dessus. J'ai pris des équipes qui bossaient déjà. Je suis assez exigeant, moi, sur ce que je porte, notamment dans le running où j'aime beaucoup, j'ai pas mal de marques très premium que j'apprécie beaucoup, du type Satisfy, etc., qui est une marque française aussi. Mm-hmm. Et du coup, je me suis un peu plugué là-dessus en disant que bah, je voulais venir sur quasiment les mêmes standards, mais avec un prix beaucoup plus raisonnable. Et du coup, j'ai été chercher des gens qui ont déjà bossé pour ce type de marque-là. Et ça va faire quasiment 2 ans que, avant de lancer, que j'ai testé les vêtements, donc que je les ai lavés, portés, reportés, relavés, et que ça bouge absolument pas. Donc c'est un vrai gage de qualité, et ça c'est trop cool parce que du coup ça donne encore plus de power quand on fait le lancement, quand on est clairement satisfait et fier de sa marque.
Bien sûr, parce que c'est un budget, hein, faut le préciser, c'est du produit haut de gamme, donc. L'intérêt, c'est donc la marque qu'on porte, le design qui est beau, et c'est vrai que ce sont des beaux produits, on le voit tout de suite sur les réseaux sociaux, mais donc la durabilité est là. C'est ça, c'est que c'est un vrai achat, c'est un investissement, quoi. C'est quelque chose qu'on peut garder dans la durée et qui ne va pas se craquer quelques fois, quoi. C'est ça.
Absolument. Et nous, on est une entre guillemets community brand de base, donc une marque qui est née vraiment avec une communauté dès le départ, de par ma présence sur les réseaux sociaux.
Bien sûr.
J'ai directement créé en fait cette sorte de mouvement où en fait tu fais partie de quelque chose de plus grand que juste un t-shirt que tu portes. Et on a des taglines, donc c'est from limit to limitless par exemple pour l'athlétique. Et il y a un vrai truc qu'on incarne en le portant, qui est entre guillemets la rigueur, la discipline, le fait d'y aller même quand on n'a pas envie, etc. Et c'est vrai que des fois, de l'extérieur, on peut se dire bon, c'est une marque entre guillemets d'un entrepreneur mais qui est aussi influenceur. Est-ce qu'il y a vraiment la qualité derrière? Donc moi j'ai mis un peu les bouchées doubles pour prouver finalement, parce que j'ai l'impression d'avoir un peu mes preuves à faire, même si sur ma marque, pendant 6 ans, je l'ai prouvé par le passé, mais montrer qu'en fait, je suis une vraie marque et pas une marque de merch d'influenceur, quoi, si tu veux.
Oui, c'est ça, non, mais tu as raison. Et de toute façon, c'est une sorte de crédibilité que tu joues aussi là-dessus, c'est-à-dire que tu veux nouer une relation avec ta communauté et ceux à qui tu vends ça. Et forcément, si les produits ne sont pas de qualité, tu auras des mauvais retours là-dessus. Il y a une très belle casquette, hein, je le précise d'ailleurs. Absolument. Pour ceux que ça intéresse. Coloris noir, ça passe avec tout. Donc, félicitations Hugo pour cette belle aventure, ce beau projet. Je te remercie aussi parce qu'il y a un ensemble de produits donc, qu'on va faire gagner sur RMC Running. La façon de gagner et de participer au tirage au sort sera un peu différente cette fois-ci parce qu'on s'adapte au profil d'Hugo. Donc, on sera nous aussi 100% digital. On sera sur notre compte Instagram. Vous y allez, vous aurez toutes les indications. Il y aura un carrousel qui pourra vous permettre de participer au tirage au sort du produit qui vous intéresse. Donc n'hésitez pas. Cette magnifique gamme CPK Athletics, la marque fondée donc par Hugo Philippe. Merci Hugo d'avoir été avec nous.
Merci à toi. Très bonne journée.
Bonne prépa marathon. Et puis écoute, on espère que les ventes vont être
connues.
Merci Hugo, à bientôt.
Merci, ciao.
Bye bye, à bientôt. Théo, merci d'être venu dans RMC Running, on s'est régalé avec toi.
Merci à vous.
On te souhaite une magnifique saison 2026, on espère être à tes côtés pour ta victoire à l'UTMB, donc à la fin du mois d'août, hein, parce que toi, tu fais partie de ces athlètes qui affichent les ambitions. On y va pour gagner, donc voilà.
Merci beaucoup.
On espère que tu seras là, sur la ligne d'arrivée, avec la meilleure place possible. Merci Théo d'être venu.
Merci aussi. À bientôt. Ciao.
Merci Théo.
Un grand merci au maître Yodu. Et toujours ce conseil pour terminer, quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous. RMC Running.